France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Camille Magnard. Rebonjour Camille.
Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle proposition de trêve est sur la table au Proche-Orient. Elle est portée par les États-Unis, validée par Israël, mais pas par le Hamas. À Gaza, nous tenterons de comprendre pourquoi avec notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefèvre. Emmanuel Macron, lui, voit la reconnaissance d'un État palestinien comme un devoir moral, une exigence politique, dit-il. Nous verrons ce que ces déclarations faites depuis Singapour, où le président français achève une tournée très axée sur le conflit israélo-palestinien. En Syrie, c'est le groupe État islamique qui se rappelle au souvenir des nouvelles autorités. Attaque contre un convoi militaire dans le sud du pays où Daesh n'avait, on le verra, jamais vraiment disparu sous Bachar al-Assad. En France, cet objectif de voir advenir des générations sans tabac, en finir avec le tabagisme des jeunes, est-ce réaliste et qu'est-ce qui l'empêche encore alors que de nouvelles restrictions pour les fumeurs dans l'espace public viennent d'être annoncées? Notre invité, c'est Marine Bro, avec qui nous reviendrons sur une semaine de recul législatif en matière de transition écologique. Avec cette question, est-il encore possible en France aujourd'hui de faire passer des lois vraiment à la hauteur de l'urgence environnementale? Enfin, plongée dans la jungle du Guatemala où une cité maya vieille de 2800 ans vient d'être découverte et nous en apprend un peu plus sur cette civilisation préhispanique, loin d'avoir livré tous ses secrets. Les Américains ont beau peser de tout leur poids au Proche-Orient, l'espoir d'une nouvelle trêve pour la bande de Gaza reste très ténu. La proposition américaine prévoit un arrêt des combats pendant 60 jours, des libérations d'otages et de prisonniers de part et d'autre et l'entrée d'une aide humanitaire véritable pour les Gazaouis affamés. Hier, le gouvernement israélien s'y est dit favorable, mais le Hamas, lui, ne semble pas s'en satisfaire. Thibault Lefèvre nous dit pourquoi à Jérusalem.
Cette énième version du plan Witkoff favorise clairement les intérêts israéliens, tout simplement parce que l'État hébreu ne s'engage pas à mettre fin au combat ni à retirer ses troupes de Gaza. Et c'est pour cette raison que Benjamin Netanyahou a validé ce nouveau plan et que malgré l'enthousiasme hier soir de l'administration américaine, le Hamas ne peut que le rejeter. Écoutez l'analyse du professeur de sciences politiques Raed Nejem. Il est à Gaza, au micro de Rami Al-Maghari.
Le Hamas passe par les États-Unis et utilise ce canal pour survivre. Il veut rester en place après la guerre. Il n'obtiendra cependant qu'un accord partiel et de l'aide humanitaire. Cet accord ne garantira de toute façon pas la fin de la guerre. C'est un dilemme qui va pousser le Hamas à revoir sa stratégie.
L'organisation islamiste est dans une impasse politique et stratégique. Elle a perdu tous ses leaders d'avant le 7 octobre. C'est le chaos à Gaza et d'autres factions fragilisent son pouvoir. Le Hamas n'a plus qu'une assurance vie, les 58 otages qu'il détient depuis plus de 600 jours. Il ne les relâchera pas tant qu'Israël et les États-Unis ne garantiront pas sa survie.
Et sur ce dossier proche-oriental, le vent diplomatique tourne décidément ces derniers jours. Alors que les Européens restent divisés sur les sanctions à prendre contre Israël, Emmanuel Macron continue de pousser vers la reconnaissance d'un État palestinien. Il le fait, Paul Barcelone, depuis Singapour où il termine aujourd'hui sa tournée asiatique.
Oui, c'est une nécessité, répète désormais Emmanuel Macron, pas seulement un devoir moral, une exigence politique. Alors le président plaide encore pour la reconnaissance rapide d'un État palestinien.
Consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous.
Un moment clé, ce sera le 18 juin à New York aux États-Unis, conférence internationale sur la Palestine, co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite. Emmanuel Macron y sera. Mais ces conditions que l'on vient d'entendre, le président les avait déjà énumérées en anglais dans le texte. C'était cette semaine devant des étudiants à l'université de Jakarta, conscient aussi que le drame humanitaire en cours à Gaza choque ici en Asie du Sud-Est, où les dirigeants appellent la France à ne pas avoir de double standard.
Alors ce double standard, justement, Emmanuel Macron s'en défend. Le drame à Gaza n'est pas moins grave que la guerre en Russie, dit-il.
Et durcit le ton contre Israël avec un message. Si la réponse n'est pas à la hauteur, si le drame humanitaire en cours à Gaza persiste, Emmanuel Macron assume, oui, il est ouvert à une position plus dure contre Israël.
C'est-à-dire mettre un terme à des processus qui supposent le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et appliquer des sanctions. Mais j'ai encore l'espoir que le gouvernement d'Israël infléchira la sienne et que nous aurons enfin une réponse humanitaire.
Espoir aussi parce que ces sanctions divisent les Européens. Emmanuel Macron finalement répercute la même philosophie. Et tant pis si certains l'accusent d'avoir changé de version. Lui appelle désormais à l'aboutissement politique d'une solution à deux États. C'est aussi la position historique de la France. Et le fil conducteur de cette tournée diplomatique qui se termine ce soir à Singapour.
À Singapour, Paul Barcelone, merci à vous pour France Culture.
Le groupe État islamique se rappelle au souvenir du nouveau pouvoir syrien.
Et les combattants de Daesh ont revendiqué hier une première attaque contre les forces gouvernementales issues de la chute de Bachar al-Assad à la fin de l'année dernière. Bonjour Noé Pignède.
Bonjour.
Cette attaque contre un convoi militaire aurait fait un mort et trois blessés. Ça se passe dans le sud du pays.
Oui, cet attentat à l'engin explosif s'est produit dans la province de Souaïda, une région où commence la Badia, l'immense désert syrien de 520 000 km² qui s'étend jusqu'à l'Irak. C'est là que s'activent les dernières cellules de Daesh depuis la chute du califat autoproclamé en 2019, car cette défaite territoriale n'a jamais signé la fin de l'organisation terroriste. Depuis 6 ans, les djihadistes sont seulement retournés dans la clandestinité. Le groupe recrute toujours et compterait environ aujourd'hui 2500 combattants. Pas une semaine ne passe sans qu'ils ne revendiquent des attaques contre les forces kurdes au nord-est, mais aussi contre les civils, plus de 700 rien que l'année dernière. Pour se financer, Daesh rackette les bergers du désert, les commerçants, mais aussi les convois pétroliers, comme au temps du califat. Depuis la chute de Bachar el-Assad, le nouveau gouvernement d'Ahmed al-Shara déclare faire de la lutte contre Daesh une priorité et assure avoir arrêté quelques djihadistes à travers le pays. Mais la réalité, c'est que l'armée ne parvient pas à stabiliser la Syrie jusque dans ses rangs. Des dizaines de petits groupes très radicaux restent incontrôlables. L'objectif de l'actuel président, ex-membre d'Al-Qaïda, c'est de montrer à l'Occident qu'il s'est éloigné de toute idéologie fondamentaliste. Mais cette position ne fait pas l'unanimité chez ses anciens frères d'armes et ça pourrait pousser les plus extrémistes d'entre eux à se regrouper à nouveau sous la bannière d'un groupe terroriste, comme Daesh.
Noé Pignède, merci à vous. Résolument optimiste, un peu seul contre tous, c'est vrai. La Turquie prend à cœur son rôle de médiatrice sur la guerre en Ukraine. Ankara, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, se dit persuadé que Russie et Ukraine souhaitent un cessez-le-feu et renouvelle son invitation à Istanbul pour accueillir une rencontre Poutine-Zelensky, une éventualité que le président russe a toujours refusée jusque-là.
Elle veut faire naître en France une première génération sans tabac. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, renforce les restrictions pour les fumeurs dans l'espace public.
Avec un accent mis sur les lieux où se trouvent des enfants, parcs, abords d'école, abribus, la ministre veut interdire la consommation de cigarettes sous peine d'amende de 135 €. Bonjour Chloé Geoffroy.
Bonjour Camille.
Ce matin aussi, on prenait connaissance des derniers chiffres officiels qui montrent que les ventes de tabac ont baissé de 11,5% en France. Est-ce que cet objectif d'une génération sans tabac semble à portée de main.
Aujourd'hui, 90% des fumeurs commencent avant 18 ans. Une première cigarette à l'école avec des copains juste pour essayer. Scénario qui se répète en boucle depuis des années. C'est le constat de Marion Adler, tabacologue.
Ça a toujours été le mécanisme, c'est en fonction des rencontres que je vais faire, je vais commencer ou pas à fumer en fonction de la manière dont je me sens, en fonction de beaucoup de choses. Mais c'est sûr que le fait de beaucoup moins voir de gens fumer autour de soi permet évidemment de dénormaliser le tabac et de réduire les risques.
Risques que les jeunes connaissent, dépendance, maladie, rejet social, ils sont nombreux à vouloir arrêter le tabac.
Je vois beaucoup de mes patients qui sont aidés à l'arrêt du tabac avec la cigarette électronique. Je vois beaucoup de jeunes que je vois en consultation qui, eux, sont aidés par la cigarette électronique pour ne pas retourner vers le tabac dans les soirées avec leurs amis. Donc la cigarette électronique, il faut la préserver. Et puis, ça permet aussi, s'il y a des arômes qui plaisent, d'avoir une sortie du tabagisme agréable et sans la souffrance du manque de nicotine.
Le taux de nicotine que le gouvernement souhaite baisser. La tabacologue rappelle par ailleurs que la cigarette électronique n'est pas la solution pour créer une génération sans tabac. Il faut bien sûr aller encore plus loin.
Il faudrait, en plus de ces mesures, une réaugmentation importante du prix du paquet de tabac. Ce qui se passe dans les pays où on voit que vraiment ils ont dénormalisé le tabac, c'est que le tabac est à peu près à 30 €. Donc on a encore du boulot, mais il y a des pays bien plus avancés qui ont cette ambition aussi. Donc je pense que ça va pouvoir le faire.
En matière de lutte contre le tabagisme, on peut citer la Suède, le bon élève. Seuls 5% des Suédois sont encore accros à la nicotine. À noter aussi que le pays scandinave a le plus faible taux de cancer en Europe.
Dossier signé Chloé Geoffroy, merci à vous. On les appelle les PADU, praticiens à diplôme étranger hors Union européenne. Ces 5000, 7000 médecins étrangers sont indispensables au fonctionnement de notre système de santé, mais ils n'ont pas les mêmes droits, les mêmes salaires non plus que leurs collègues français. En mars, certains PADU s'étaient mis en grève de la faim pour réclamer la fin de ces inégalités. Et c'est en ce sens que le gouvernement, hier, a publié au Journal officiel deux décrets censés simplifier leurs procédures de régularisation. De nouvelles règles qui ne sont pas toutefois à la hauteur, selon Abdelalim Ben Saïdi, président de l'association IPADEC pour intégration des praticiens à diplôme étranger engagés contre la crise. Il exerce en diabétologie à l'hôpital Max Forestier de Nanterre.
Toutes les choses que nous craignons paraissent encore dans ce texte. Le nombre de postes qui est limité. Et ça reste un concours et non pas un examen, comme l'avait promis le ministre de la Santé. La deuxième promesse qui n'est pas tenue, c'est que le ministre de la Santé avait promis que les chefs de service seraient inclus dans ce processus d'évaluation. Donc les chefs de service auraient un certain impact dans l'évaluation des PADU, et c'est tout à fait normal parce que c'est les chefs de service qui travaillent quotidiennement avec ces médecins-là, et on ne comprend pas pourquoi avoir supprimé l'épreuve pratique et gardé une épreuve fondamentale qui est purement théorique. Les internes ont une journée pédagogique par semaine pour pouvoir préparer leur concours, alors que les PADU, ils travaillent d'arrache-pied tous les jours, même les jours fériés, les week-ends, donc ils n'ont pas de temps à préparer des concours. Il n'y a pas de support pédagogique non plus. On change des épreuves, on fait une nouvelle réforme, mais en même temps, il n'y a pas de support pédagogique pour les PADU pour pouvoir préparer ce concours. Donc c'est là où on voit que le ministre n'a pas tenu sa parole, et c'est pas nouveau en France que les politiciens ne tiennent pas leur parole.
Abdelalim Ben Saïdi au micro de France Info ce matin. Après Jennifer, dont les magasins ont baissé le rideau mercredi, c'est l'enseigne de prêt-à-porter Naf-Naf qui est à son tour placée en redressement judiciaire. 600 emplois sont menacés. Naf-Naf avait pourtant été racheté en juin l'an dernier par un repreneur turc qui évoque à présent des difficultés de trésorerie. Et puis pas moins de 25 suspects présentés aujourd'hui à des juges d'instruction en vue de possibles mises en examen. Il s'agit des suites de ces enlèvements ou tentative d'enlèvement dont avaient été victimes des personnalités liées au commerce des crypto-monnaies. Confirmation donc qu'il y a eu un vaste coup de filet cette semaine mené par les enquêteurs de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris. Notre séquence invitée de ce vendredi en forme de retour en arrière sur une semaine qui ressemble bien à celle de tous les renoncements en matière de lois environnementales. D'abord, loi Duplon sur l'agriculture qui prévoit la réintroduction d'un pesticide interdit mais qui a été bloquée par ses propres partisans, contournement législatif pour éviter les débats à l'Assemblée. Puis la révision à la baisse du dispositif zéro artificialisation nette, reprise des travaux sur l'autoroute A69, suppression enfin des zones à faible émission, les ZFE. On parle de tout ça avec vous. Bonjour Marine Brault.
Bonjour.
Vous avez fondé, vous co-dirigez la société de conseil Alameda, conseil en transition écologique pour les entreprises. Vous avez été conseillère sur ces questions également pour l'Élysée et Matignon ces dernières années. Démarrons sur le plus récent, hein, ces ZFE. Vous estimez que cette suppression de la mesure nous fait repartir en arrière de près de 10 ans sur la lutte contre la pollution de l'air. Alors pourquoi est-ce que ce dispositif a tant suscité d'opposition, notamment de ceux qui disent qu'il est particulièrement injuste pour les ménages les plus modestes?
Je pense que justement, le recul qu'il y a eu sur les ZFE cette semaine est caractéristique des attaques qui aujourd'hui sont faites aux mesures de la transition écologique. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que pendant très longtemps, on a fait de la transition écologique sans toucher au quotidien et à la vie des Français. Typiquement, sur la baisse des émissions polluantes des voitures, on a d'abord commencé par obliger les constructeurs automobiles à réduire les émissions des voitures qu'ils vendaient. Donc la plupart des gens, en fait, se sont pas rendus compte que leur voiture était de moins en moins émettrice de polluants. Et quand je dis de polluants, c'est pas des gaz à effet de serre, hein, c'est vraiment des particules fines, c'est de l'ozone, c'est des choses qui aujourd'hui causent le décès prématuré de 40 000 personnes en France. Et pour réussir à aller chercher les derniers pourcentages qui permettent de diminuer encore la pollution de l'air pour la ramener à des seuils qui sont acceptables d'un point de vue sanitaire, il fallait commencer à restreindre la circulation des plus vieux véhicules qui ont plus de 15 ans ou plus de 20 ans pour les essences.
C'est ça les zones à faible émission.
Et en fait, les zones à faible émission, qu'est-ce qui s'est passé? On les a votées dans la loi en 2019, on les a renforcées dans la loi climat résilience en 2021. Puis après, il se passe un long moment où la plupart des politiques osent assez peu en parler parce qu'on sait que restreindre la circulation d'un certain nombre de personnes, c'est assez impopulaire. Comme dirait le président de la République, les gens aiment leur bagnole. Mmh. Et effectivement, ça a quelque chose d'assez impopulaire. Mais du coup, ce faisant, on ne laisse la place qu'aux populistes qui expliquent à quel point c'est un scandale pour tout le monde, qui gonflent toutes les difficultés en créant beaucoup de fake news, beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et qui nous empêchent de voir les vrais problèmes et donc d'y répondre.
Et puis il y a le véhicule qui est utilisé, le discours. Là, on voit que pas mal de recul cette semaine. ZAN, ZFE, c'est dans le cadre de l'examen d'une loi dite de simplification. Ce discours de simplification porté notamment par les entreprises, les acteurs économiques, il vient faire obstacle très souvent aux impératifs de transition écologique.
Il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui opposent économie et écologie. Je pense que les gens qui comprennent que dans tous les cas, il n'y aura pas d'économie sur une planète morte sont encore malheureusement assez peu nombreux. Et donc, ils pensent que oui, quand on empêche l'artificialisation des sols, on va empêcher la réindustrialisation du pays. Il y a beaucoup de maires aujourd'hui en France qui pensent que s'ils n'ont pas d'industrie, c'est à cause de la loi sur la fin de l'artificialisation à l'horizon 2050. Je tiens à dire que ça, typiquement, c'est une fake news. Aujourd'hui, moi, il ne m'est jamais remonté un seul cas d'industrie qui n'a pas pu s'installer pour des raisons de lutte contre l'artificialisation. Il y a plein d'autres sujets qui expliquent qu'aujourd'hui, l'industrie ne se réinstalle pas autant que ce qu'on voudrait et l'artificialisation n'en est pas. Par contre, l'écologie devient un bouc émissaire de se dire s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est forcément de la faute de ces politiques-là et donc on va revenir en arrière. Et en fait, on va avoir un double effet qui se coule, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Le premier, c'est qu'en fait, on va pas du tout résoudre le problème. C'est le même sujet quand on réduit les réglementations vis-à-vis des agriculteurs. En fait, ça ne résout pas les vrais problèmes des agriculteurs, qui sont des problèmes, par exemple, de niveau de vie, de bien gagner leur vie avec ce qu'ils font. Et en même temps, on continue à détruire l'environnement qui permet d'assurer la croissance et globalement notre modèle social.
Alors, quelle attitude les politiques peuvent adopter face à ça? Comment faire pour que les renoncements, justement, dont on parle là, ne se reproduisent pas? On pense notamment à 2035 avec l'interdiction des véhicules thermiques. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas retomber dans les mêmes reculs, finalement?
Alors, je pense qu'il y a une première chose qui est d'avoir le courage de la pédagogie. On sait qu'il y a plein de mesures qu'on va prendre, qui sont des mesures qui peuvent être impopulaires, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas prendre le micro et expliquer. Vous venez, par exemple, de dire la fin des véhicules thermiques à 2035. Il faut reprendre un pas de recul et se dire, c'est la fin de vente des nouveaux, c'est-à-dire que les concessionnaires automobiles n'auront plus le droit de vendre des nouveaux véhicules thermiques. Mais les gens qui auront acheté un véhicule thermique en 2034, ils pourront très bien continuer à rouler avec et ils pourront continuer à rouler avec jusqu'à ce que leur véhicule thermique meure de sa belle mort, si j'ai envie de dire. Et donc ça, c'est justement pour accélérer le renouvellement du parc et accélérer son électrification. C'est aussi pour permettre qu'une filière de l'électrique pas chère se développe parce qu'on se dit qu'il va y avoir un marché derrière, notamment un marché de la seconde main, puisque la plupart des gens achètent quand même leur voiture d'occasion et pas directement chez leur concessionnaire. Et donc, ce sont des politiques qui voient à long terme. Après, le drame, c'est qu'aujourd'hui, on n'a quand même pas beaucoup de politiques qui voient à long terme et qu'on voit que globalement, le bloc central court après la droite, qui elle-même court après l'extrême droite, et que même sur les sujets d'écologie, en fait, c'est l'extrême droite et globalement les populistes qui donnent le rythme.
Et on restera sur ce constat. Merci beaucoup Marine Brault d'avoir été notre invitée. Je rappelle, associée fondatrice de la société de conseil en transition écologique Alameda.
Merci à vous.
Avant de refermer ce journal, un détour par l'Amérique centrale, le Guatemala et un voyage dans le temps aussi auquel nous invite cette découverte archéologique, les vestiges d'une importante cité maya vieille de 2800 ans littéralement extirpée de la forêt vierge, Étienne Monin, et qui nous permettent de mieux comprendre cette civilisation maya ayant connu son apogée 4 siècles après Jésus-Christ.
Et pour faire cette découverte, il a fallu fouiller la jungle avec des techniques ultra modernes. La civilisation maya est encore un monde enfoui. Elle reste protégée par la jungle, dans laquelle on trouve les singes hurleurs, les pumas, les jaguars. Les temples sont enfouis sous des collines de terre. On les découvre petit à petit dans le nord du Guatemala, autour de Tikal, le site le plus célèbre avec le temple du jaguar haut de 47 mètres. C'est l'équipe d'un chercheur slovaque qui a fait cette dernière découverte. Milan Kovac fouille la jungle guatémaltèque depuis 17 ans. Il vient d'identifier 3 sites qui s'étendent sur 16 km avec des pyramides, des observatoires astronomiques et des monuments sculptés. Pour sonder la jungle, cet Indiana Jones moderne utilise un laser qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. Il permet de capter des images en 3 dimensions. Pour le Guatemala, cette nouvelle découverte permet de renforcer le capital touristique du pays qui s'appuie en grande partie sur les restes de la civilisation maya.
Et la météo en France, c'est pas compliqué pour aujourd'hui. C'est enfin estival sur tout le pays. Thermomètre cet après-midi qui affichera 29 degrés à Paris et Belfort, 31 à Lyon et Limoges, 33 degrés pour Bordeaux. Le quart sud-ouest, justement, qui va voir des orages éclater tout de même en fin de journée. Ce journal de la mi-journée a été réalisé avec Yann Ozaman. Vous retrouverez Catherine Pétillon à 18h pour un prochain point sur l'actualité.